Vous êtes bien à l'écoute de RFI, les 15h en temps universel, 16h à Paris, 17h à Kiev et 18h à Riyad. Le journal vous est présenté par Karine Bellicha. Bonjour Karine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Ne pas rester sur la touche, telle est l'ambition des Européens réunis en toute urgence à Paris cet après-midi face à la volonté de Donald Trump de négocier seul la paix en Ukraine. En tête à tête avec Vladimir Poutine, une rencontre a lieu à Riyad dès demain entre des délégations américaines et russes. Une nouvelle phase de négociation du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas va s'ouvrir désormais. Un cabinet de sécurité est convoqué pour discuter de cette nouvelle étape à Gaza, alors que l'armée israélienne doit se retirer demain d'un autre front, celui du Liban. Et puis Mehdi Nemmouche a parlé ce matin à l'ouverture de son procès devant la cour d'assises spéciale de Paris. Poursuivi comme quatre autres djihadistes, il a nié avoir été le geôlier des journalistes français détenus pendant près d'un an en Syrie. L'Ukraine est en Europe et les leaders du continent entendent reprendre la main et faire entendre leur voix. C'est l'objectif du sommet convoqué en toute hâte à Paris aujourd'hui. Une dizaine de dirigeants de l'Union européenne et de l'OTAN veulent répondre aux défis lancés par le président américain. Donald Trump fait cavalier seul. Il planifie ses retrouvailles avec Vladimir Poutine et envisage de négocier la paix en Ukraine en tête à tête avec lui. Pour les Européens, il est donc urgent de présenter un front uni. La question de l'envoi de troupes en Ukraine sera débattue, mais la Hongrie, qui n'est pas invitée à Paris, veut une nouvelle fois faire entendre sa propre partition. À Budapest, Florence Labruyère.
La décision de Donald Trump de négocier directement avec Vladimir Poutine a choqué les Européens. Mais le ministre hongrois des Affaires étrangères, Péter Szijjártó, applaudit l'initiative de Donald Trump.
Nous sommes persuadés que les efforts de Donald Trump vont porter leurs fruits. Le dialogue entre Américains et Russes peut ramener la paix en Ukraine.
Le ministre de Viktor Orban accuse même les dirigeants européens de vouloir saboter les chances d'un retour à la paix.
Aujourd'hui, à Paris, des dirigeants européens frustrés, pro-guerre et anti-Trump se réunissent pour empêcher un accord de paix en Ukraine.
Depuis plusieurs années, Viktor Orban affiche sa proximité avec Moscou. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche semble conforter le Premier ministre hongrois dans ses positions. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Le sommet États-Unis-Russie s'annonce, lui, sous les meilleurs auspices. Les deux pays veulent acter un nouveau départ. Gage de bonne volonté, le Kremlin a même annoncé la libération d'un Américain arrêté à l'aéroport de Moscou pour avoir transporté du cannabis. Tenu à l'écart, Volodymyr Zelensky va se rendre en Arabie Saoudite mercredi, au lendemain de la rencontre américano-russe où il n'a pas été convié. Pas question, dit le président ukrainien, de reconnaître un accord conclu sans lui. Londres entend bien jouer le rôle de facilitateur. Le Royaume-Uni est représenté à Paris aujourd'hui. Le Premier ministre britannique se rendra aussi la semaine prochaine à Washington pour rencontrer Donald Trump. Keir Starmer veut faire le pont entre l'Union européenne et les États-Unis sur le dossier ukrainien. Au Proche-Orient, après ses entretiens avec le chef de la diplomatie américaine qui a rejoint Riyad, Benjamin Netanyahou réunit son cabinet de sécurité. Une réunion pour aborder la nouvelle phase du cessez-le-feu à Gaza. Cette étape est un nouveau défi titanesque puisqu'il prévoit le retour de tous les otages et la fin définitive de la guerre. D'autant plus que le Premier ministre israélien réaffirme que l'avenir de Gaza devra se faire sans le Hamas et sans l'autorité palestinienne. Dans le même temps, Israël envoie une délégation au pour poursuivre les discussions à Jérusalem, Michel Paul.
Après une conversation entre le Premier ministre israélien et l'émissaire américain pour le Proche-Orient, Steve Witkoff, une délégation israélienne se rend aujourd'hui dans la capitale égyptienne. Il faut le souligner, son mandat est réduit à la poursuite de la mise en œuvre de la première phase de l'accord de cessez-le-feu. Il s'agit notamment de l'entrée dans la bande de Gaza de quelque 60 000 maisons mobiles et de matériel de terrassement, en échange de quoi Israël veut obtenir la libération de 6 otages dans les tout prochains jours. Ce soir, réunion du cabinet de sécurité à Tel Aviv pour discuter de la seconde phase de l'accord. À l'issue de ce débat, de nouvelles instructions pourraient être envoyées aux négociateurs israéliens pour progresser vers une nouvelle étape. Rappelons que hier, Benjamin Netanyahou a déclaré à l'issue de sa rencontre avec Marco Rubio, le secrétaire d'État américain, qu'Israël et les États-Unis avaient une stratégie commune dont les détails ne pouvaient pas tous être divulgués publiquement. Michel Paul, Jérusalem, RFI.
À la frontière libanaise, la tension est grande. Le président Joseph Aoun dit craindre que l'armée israélienne ne se retire pas totalement du sud Liban demain, comme le cessez-le-feu signé fin novembre le prévoit. L'armée israélienne annonce d'ailleurs qu'elle va se maintenir en 5 points stratégiques du Liban. Israël qui a mené une frappe à Saïda dans le sud du pays. Un commandant du Hamas palestinien a été tué dans l'attaque. En Syrie, Ahmad al-Shara s'est pour la première fois déplacé dans la région Alawite, le fief de l'ancien régime. Le président par intérim s'est rendu à Latakié et à Tartous. À l'ouest du pays, il y a rencontré des notables locaux alors que la minorité Alawite craint toujours des représailles après la chute de Bachar el-Assad. D'anciens otages avaient reconnu Mehdi Nemmouche qu'après la tuerie du musée juif de Bruxelles. Pas de doute pour eux, il s'agissait de leur geôlier en Syrie. Le procès de 5 djihadistes s'est ouvert ce matin à Paris et Mehdi Nemmouche a nié d'emblée avoir séquestré des otages, dont 4 journalistes français. Didier François, Édouard Elias, Nicolas Hénin et Pierre Torres avaient été enlevés, les uns à Alep, les autres à Raqqa. Ils n'ont été libérés que près d'un an plus tard, après des mois de violences physiques et psychologiques. À la cour d'assises spéciale de Paris, le compte-rendu de Laura Martel.
Je n'ai jamais été le geôlier des otages occidentaux ou de quelque otage que ce soit. En Syrie, j'ai toujours été un soldat sur la ligne de front face aux forces de Bachar el-Assad, a déclaré Mehdi Nemmouche. Puis à propos des ex-otages dont certains lui font directement face, je n'ai jamais rencontré ces personnes en Syrie. La première fois que j'ai vu Nicolas Hénin, c'était aux Assises de Bruxelles. Une référence là à son procès en Belgique en 2019, durant lequel il avait gardé le silence, comme devant les enquêteurs français. D'où l'intérêt de cette prise de parole, car de nombreuses parties civiles redoutaient un mur de silence, même si rien ne dit qu'il continuera à parler, d'autant plus avec ce positionnement de démenti catégorique. L'une des inconnues de ce procès, c'est bien sûr la tournure que va prendre le face-à-face entre les ex-otages et leur geôlier présumé. Car si un procès pour terrorisme est toujours émotionnellement lourd, la relation personnelle subie dans la durée entre les tortionnaires présumés et leurs victimes risque d'être un facteur multiplicateur. Le journaliste Nicolas Hénin a toutefois rappelé ce matin l'importance de ne pas se focaliser sur Mehdi Nemmouche, qui n'est pas le seul accusé, et l'importance surtout de témoigner de l'intérieur des rouages de ce qui deviendra le groupe État islamique. Pour les milliers de Syriens victimes des mêmes exactions et pour les autres otages occidentaux dont 8 ont été exécutés, plusieurs ex-otages et familles d'otages européens et américains ont d'ailleurs souhaité s'ajouter à la liste des parties civiles ce matin.
Laura Martel, et puis le procès se tient jusqu'à fin mars. En Inde, les rassemblements religieux provoquent des drames à répétition. Cette fois-ci, c'est dans une gare de New Delhi qu'une bousculade géante s'est produite. 18 personnes sont mortes. Une foule dense s'était agglutinée sur les quais pour pouvoir emprunter des trains menant à un festival religieux géant de la Kumbh Mela, la correspondance de Combastin à Bangalore.
On en sait un peu plus sur ce qui s'est produit ce week-end à New Delhi. Des milliers de tickets supplémentaires avaient été vendus pour Prayagraj, la ville où le rassemblement de la Mahakumbh Mela se déroule jusqu'au 26 février. Mais alors que les trains étaient en retard et les quais bondés de voyageurs impatients d'embarquer, l'annonce d'un train pour le pèlerinage a suscité le meurtrier mouvement de foule. La police des chemins de fer a depuis été déployée dans la gare où la vente de tickets est limitée. Les partis d'opposition accusent le gouvernement et les chemins de fer indiens d'avoir mal planifié ce départ des pèlerins et les mouvements de foule. D'autant qu'au moins 30 personnes ont déjà perdu la vie lors de ce festival fin janvier, après que la police a été débordée par le nombre de fidèles. Le gouvernement a promis la lumière sur ce drame. Ses partisans rappellent que les rassemblements religieux avec ferveur en Inde en occasionnent souvent. En juillet, plus de 120 Indiens étaient morts en venant écouter un prêcheur hindou. En 1954, plus de 400 personnes ont été tuées lors d'une Kumbh Mela.
Combastin, Bangalore, RFI.
Le pape François va rester hospitalisé au moins jusqu'à mercredi. Il présente un tableau clinique complexe selon le bulletin de santé publié. François, âgé de 88 ans, se trouve à l'hôpital Gemelli de Rome depuis vendredi pour une grosse infection des voies respiratoires. Un mot de cinéma à 15 jours des Oscars, Conclave et The Brutalist ont été récompensés au BAFTA hier. Égalité, 4 récompenses britanniques chacun. Conclave a été sacré meilleur film, un thriller sur les jeux de pouvoir lors de l'élection d'un pape. The Brutalist s'est imposé dans les catégories meilleur réalisateur pour Brady Corbett et meilleur acteur pour Adrien Brody, qui incarne un architecte survivant de la Shoah, l'acteur par favori pour l'Oscar plus de 20 ans après sa consécration pour Le Pianiste. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.